Bonjour à tous. Au sommaire de cette grande table du lundi, un Québécois de passage à Paris, le sociologue Mathieu Bock-Côté, celui qui veut rendre le sourire à notre identité malheureuse, met en garde contre le multiculturalisme et appelle à préserver nos héritages culturels. Il nous dira pourquoi à partir de 12h55. Mais d'abord, gare à la nonne sanglante. Après des siècles d'oubli, elle revient vous hanter sur la scène de l'opéra comique, un opéra fantomatique, voire gothique, ressuscité à l'occasion du bicentenaire de Charles Gounod, avec à la baguette la grande et ineffrayable chef d'orchestre Laurence Equilbé, notre invité, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Entrée dans le répertoire mondial avec Faust et Roméo et Juliette, le compositeur français Charles Gounod, il a traversé le 19e et l'auteur d'autres pépites lyriques comme cette Nonne sanglante, un opéra créé en 1854, l'un de ses tout premiers sur un livret d'Eugène Scribe. Allez tous en chœur, attention, c'est le retour des morts vivants. N'ayez pas peur, approchez. Bonjour Laurence Equilbé.
Bonjour.
Un décorum un peu gothique, une mise en scène en noir et blanc signée David Bobet. On se croirait un peu sur le tournage de Game of Thrones avec du Carrie de Brian De Palma. Ça, c'est pour la dimension visuelle. La trame, c'est un peu comme dans Roméo et Juliette au départ. Ce sont deux familles qui s'affrontent, une histoire d'amour contrariée par ces rivalités claniques. Et au milieu de tout ça, surgit la nonne sanglante et un serment. La nonne, femme maudite, empêchée de trouver un repos éternel. Quelle malédiction la pousse à revenir nous hanter.
Oui, en fait, effectivement, il y a le cadre général, c'est la haine de deux familles, mais ça reste une forme de scénographie dramatique. Et puis, effectivement, il y a cette nonne, ce spectre qui est vraiment une instance du fantasme. C'est le fantasme phare de toute cette littérature à l'époque. Et face à elle, il y a aussi l'instance de l'autorité avec le père du héros qui s'appelle Rodolphe et aussi l'ermite qui est aussi l'autorité religieuse. Et donc ces deux instances vont gêner le héros Rodolphe dans sa quête amoureuse.
C'est d'abord une figure littéraire ou mystique pour vous, cette nonne sanglante?
Oh, elle a été un petit peu mise sous toutes les coutures et donc cette nonne depuis très très longtemps dans la littérature. Et c'est vrai que à l'époque du roman gothique anglais notamment, c'est un des grands épisodes du moine de Lewis qui a d'ailleurs été traduit par Antonin Artaud. Et c'est vrai que les psychanalystes sont emparés de cette littérature assez vite parce que c'était déjà une première lecture du psychisme intime, et donc ça les a beaucoup intéressés. Et donc effectivement, cette figure, c'est une figure nodale dans les fantasmes, cette nonne. Alors ici, elle a un traitement particulier parce qu'en fait, elle a été assassinée comme femme amoureuse qui était rentrée dans les ordres parce qu'elle a cru que son fiancé était mort à la guerre, et en fait il n'était pas du tout mort. Et quand elle est venue à son mariage, parce qu'elle a su qu'il se mariait, il l'assassine durant son mariage, voilà. Et c'est pour ça qu'elle est cette nonne ensanglantée, parce qu'elle a été assassinée.
musicalement, comment vous qualifiez la couleur, la tonalité de cet opéra ?
Alors c'est un opéra assez génial à mon sens. C'est le deuxième opéra de Gounod qu'il a écrit juste après son premier qui s'appelle Sappho.
Et avant Faust.
Avant Faust, oui. Donc, Gounod a 36 ans, il est jeune. Et c'est très très bien fait parce que d'abord, c'est un petit peu ce qu'on appelle en allemand « Durchkomponiert », c'est-à-dire il n'y a pas de numéro, tout s'enchaîne avec le texte, avec le drame, donc on ne sent pas les césures, ça c'est très très bien fait la plupart du temps. Et puis il y a plusieurs aspects, il y a l'aspect vraiment très dramatique, il accompagne extrêmement bien les climats de terreur, donc, et ça pour ça il s'inspire un petit peu de l'univers d'un von Weber, par exemple dans Freischütz, tout cet univers fantastique qui est très très bien rendu au niveau de la couleur musicale. On a pu le voir sur cette Zombie Walk, là, cette Marche des Morts. Et puis, il y a le génie mélodique de Gounod. Alors là, c'est inénarrable, c'est fantastique. Le rôle principal, donc Rodolphe, qui est un ténor, a des mélodies, mais à tomber par terre, tellement elles sont belles. Et donc ça, c'est formidable. C'est déjà le grand génie de Gounod là-dessus. Et puis, dernière chose, c'est cette orchestration qui est brillante, très, très écrite, très, très avec beaucoup, beaucoup de couleurs. Les bois, les clarinettes, bassons, dans le grave, qui amène vraiment beaucoup, beaucoup de couleurs. Grande virtuosité d'écriture, donc chapeau bas pour cette œuvre.
Et Gounod, c'était un grand admirateur de Berlioz. Il semblerait qu'au moment où il écrit, ou en tout cas il reprend cette composition, il craint un peu le jugement de ses pairs. Est-ce que vous retrouvez quelque chose de Berlioz?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, Berlioz s'était essayé, a eu en premier le livret qui a été remanié par Scribe, un peu adouci d'ailleurs dans le côté anticlérical, parce qu'on savait aussi que Gounod était très croyant. Ça y a eu un petit déséquilibre dans le livret qui est naturellement gothique et normalement volontairement anticlérical. Et donc Berlioz a écrit deux actes de cette œuvre qui sont très beaux d'ailleurs, et puis il a jeté l'éponge, comme on dit. Et il était très admiratif de la partition de Gounod. Il a lui a même dit, et par lettre et par critique, et notamment il y a un moment donné, un moment où l'histoire bascule et il y a une sorte de chœur de coulisses avec des très très efficaces, et Berlioz a vraiment loué ces pages-là.
Celui qui a vraiment le beau rôle, et vous venez de l'évoquer, en tout cas le plus grand, c'est Rodolphe, interprété ici par le ténor américain Michael Spiers, qui sue littéralement tout au long de cet opéra en 5 actes, qui a une présence extraordinaire et qui porte l'opéra. On l'écoute.
Oh!
parlait Laurence Equilbé, de la couleur de cette opéra, de cette nonne sanglante entre romantisme noir et fantastique. Comment vous, vous avez procédé pour faire vibrer à l'unisson la part à la fois sentimentale et spirituelle de cette œuvre? On a le sentiment que vous êtes aussi passé, que vous avez fait un détour par la psychanalyse ou par le psychanalytique pour essayer de comprendre ce qui se joue là et le rendre en musique.
On a suivi plusieurs pistes dramaturgiques avec David Bobet, parce qu'on a travaillé main dans la main depuis 2 ans pour trouver vraiment la profondeur et la bonne densité de ce projet, puis aussi pour qu'elle résonne aujourd'hui dans nos yeux contemporains, c'est important. Et j'ai travaillé notamment le livret, j'ai passé au banc de la psychanalyse, c'est vrai, le livret avec Annaëlle Leibovitz-Kinéenne. Et c'était très intéressant parce qu'on a vraiment vu cette histoire d'univers mental de ce Rodolphe qui doit s'affranchir de l'autorité à la fois de son père et de s'affranchir de ce non-dit familial, de ses fantasmes. Alors on peut dire que c'est soit la vraie histoire, soit c'est un mélange entre un univers mental et la vraie histoire, pour enfin pouvoir s'engager avec Agnès pour aller vers son désir. Et ça, c'était très intéressant pour moi de voir à quel point les rapports psychanalytiques sont résonnés avec cette lecture, mais de la même façon que j'ai beaucoup aussi étudié, notamment avec Martine Laveau, et j'ai beaucoup discuté aussi avec François Angelier, qui a cette émission Mauvais Genre, sur France Culture notamment, à propos de tout cet univers gothique et justement en quoi l'intrigue devait mettre énormément en tension le rapport piège-refuge. Ça, c'était très important qu'on sente cette tension qui fait qu'ensuite nous sommes dans un environnement gothique.
Ça veut dire qu'avec La Nonne Sanglante, on peut parler d'un opéra de genre, comme on parle d'un cinéma ou d'une littérature de genre, le fameux mauvais genre auquel François Angelier rend effectivement hommage tous les samedis soirs sur Culture. Ouais. C'est un opéra de genre.
Oui, alors après, il y a des choses universelles. Ce chant qu'on vient d'entendre de Rodolphe, qui est extraordinaire, qui est une cavatine, comme on dit. Voilà, c'est pratiquement un chant à la lune, quasiment. Enfin, c'est magnifique. Donc ça, c'est des moments que vous pouvez vivre dans d'autres opéras. Mais c'est vrai, le fait qu'il y ait ce cœur fantastique dont je vous ai parlé, avec ces voix fantomatiques, qu'il y ait cette marche des morts, une zombie walk, quand même, c'est incroyable. Et puis les grands couplets de La Nonne Sanglante, qui est traité vocalement très, très spécialement, avec un chant assez haché, pas tellement naturel, et qui est très bien rendu par Marion Lebeg. Effectivement, ça, c'est tout à fait des pièces de genre qui sont très savoureuses, parce qu'il n'y en a pas tant que ça dans le répertoire français, en fait. On a eu, justement, Robert le Diable quelques années avant, mais il n'y a pas tant que ça d'ouvrages fantastiques dans le répertoire français.
Alors, c'est une pièce, on disait, qui avait disparu presque du répertoire, hein, que l'opéra comique ressuscite aujourd'hui. Vous avez dû partir de rien ou de pas grand-chose pour le monter, cet opéra, ensemble avec David Bobet. Sur quelles expériences passées vous êtes appuyé pour faire résonner la petite musique intérieure de cette nonne sanglante? On imagine que vous êtes allé exhumer, livrer, partition, etc.
Alors en fait, donc c'est un projet qui est né en collaboration avec l'opéra comique et aussi le Palazzetto Bruzzane, qui défend beaucoup la musique romantique française. Et c'est vrai qu'à Paris, en France, ça n'a pas été rejoué depuis 1854. Il y a eu 11 représentations à l'époque. Et le directeur ayant changé a décidé d'enlever cette ordure, ces mots, de l'affiche. On peut dire aussi que souvent les directeurs qui arrivent disent toujours que la programmation de l'ex-directeur est nulle et qu'il faut s'en séparer. Voilà, donc ça n'a pas été de chance pour cet opéra. Et je pense que Gounod, jeune compositeur, en a été très meurtri. Et du coup, lui-même est passé à autre chose. Alors qu'il aurait vraiment, s'il avait peaufiné cette partition, je pense qu'elle serait rentrée plus facilement dans le grand répertoire, ce qui, j'espère, va lui arriver bientôt. Et ensuite, il y a eu une production en Autriche en 2008, donc qui a fait l'objet d'ailleurs d'un enregistrement, qui a le mérite d'exister, comme ça, quand même, parce que c'est pas très bien chanté, mais c'est quand même un témoignage sur cette œuvre.
Et c'était une base de travail aussi pour vous.
Et ensuite, surtout, on a un manuscrit dans lequel il y a beaucoup de fautes, parce que, comme je viens de vous dire, Gounod l'a vraiment laissé tomber complètement. Mais
des fautes de notes.
Il y a beaucoup de fautes de notes. Oui. C'est des erreurs de copie, quoi. C'est pas. Et du coup, avec le Palazzetto, nous avons fait refaire ce qu'on appelle un conducteur, c'est-à-dire une partition de chef d'orchestre. Voilà, on a tout reconstruit. Et ensuite, avec David Bobet, on a remanié un petit peu, on a resserré, comme on dit, l'ouvrage, parce qu'il y avait notamment un ballet très très long, parce que c'était l'usage à l'époque. On a resserré ici ou là l'action. Ouais.
Alors, on évoquait cette œuvre à l'origine amorale, presque anti-religieuse, sous la plume de Lewis. Scribe et Gounod vont en faire un opéra presque chrétien. Le presque est de la spécialiste Martine Lavaux, qui s'est penchée aussi sur cette œuvre. Il fallait être à l'époque en phase avec le climat du moment, la pensée du moment. Est-ce que quand vous l'avez reconstitué aujourd'hui, vous n'avez pas eu envie d'y rajouter une part plus transgressive, plus gothique, plus noire, comme ça l'était à l'origine?
Complètement. Oui, c'est absolument ce qu'on a fait avec David Bobet, le metteur en scène, ce qui est formidable. En fait, donc, c'est vrai que la figure religieuse est assez préservée. Et d'ailleurs, en général, dans cette littérature, la figure maternelle est préservée aussi. Donc ça, c'est intéressant. Mais ici, du coup, on est devenu plus neutre. C'est-à-dire, en plus, l'ermite appelle quand même à la croisade. Donc voilà, donc c'est quand même assez noir. Il dit, arrêtez ce combat, faites un autre combat. Donc c'est intéressant. C'est pas forcément très glorieux. Et en plus, il l'oblige. Il y a un mariage arrangé dans cet opéra. Donc aussi, ça, on a noirci cet aspect-là. Et à la fin, l'ermite s'efface comme une instance. Bon, alors, il n'est pas très malmené, effectivement, dans cet opéra, mais on l'a un tout petit peu plus malmené que, j'imagine, Scribe n'espérait.
Vous y prenez du plaisir, vous, à le diriger, cet orchestre, cet opéra?
Oui, j'ai beaucoup de plaisir. D'abord, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec David Bobet, à construire un peu notre vision commune, parce que c'était intéressant de voir comment est-ce qu'on pouvait tirer des fils ensemble. Et puis, l'orchestre, donc c'est avec Insula Orchestra, est très impliqué dans cette interprétation, et sur le plateau des solistes magnifiques et Accentus. Et je dois dire que c'est très varié, en fait, et puis c'est très énergique aussi comme œuvre. Moi qui aime bien le vif argent et le pré-romantisme, j'aime beaucoup le pré-romantisme pour sa sincérité, en même temps son impatience. Et du coup, c'est vrai qu'en tant que chef, on prend beaucoup de plaisir à le diriger. Ouais.
Tiens ton serment et je tiendrai le mien, dit la nonne sanglante à Rodolphe. Il y a une promesse que vous vous êtes faite, Laurence Equilbé, au début de votre parcours, de votre carrière, et que vous vous attachez à tenir aujourd'hui encore. Une promesse faite à vous-même.
Ah, une promesse faite à moi-même. Oui, parce que c'est vrai que la nonne demande à Rodolphe de tuer son assassin, et l'assassin se trouve être le père de Rodolphe.
Ah, fallait pas le dire.
C'est un peu compliqué. Je me suis fait beaucoup de promesses, oui, j'en ai plusieurs, hein, mais bon, l'exigence avec soi-même en étant une, effectivement, moi, j'ai toujours un petit mantra dans ma tête qui est que, sauf accident grave, on arrive quelques mètres de là où on se projette, donc il faut se projeter. Et se projeter, c'est effectivement se faire des promesses et se faire des défis, se lancer des défis personnels.
Voilà. Et on va voir jusqu'où vous allez continuer à vous projeter, puisqu'on est ensemble jusqu'à 12h30. Laurence Equilbé est notre invitée. Il faut juste tendre l'oreille pour entendre le récit de la nonne et on vous retrouve juste après. la chef d'orchestre Laurence Écubé. Et oui, il faudra aller voir La Nonne Sanglante, c'est à l'Opéra Comique jusqu'au 14 juin, à voir et écouter avec votre direction, Laurence Equilbé. Vous dirigez aussi l'ensemble Insula Orchestra depuis 2012 et programmez une bonne partie de la programmation musicale, de la scène musicale sur l'île Seguin, près de Paris. Bienvenue à vous, on est ensemble jusqu'à midi et demi, c'est la grande table du lundi.
France Culture, la grande table. Olivia Gesbert.
Et parmi vos engagements forts, Laurence Equilbé, il y a celui de la place des femmes aujourd'hui dans le spectacle vivant, dans la musique aussi. En 2016, les femmes chefs d'orchestre sont encore largement minoritaires en France, 21 femmes pour 586 hommes. Il semblerait que ce ne soit pas la tasse de thé de certains hommes, pour reprendre l'expression du chef d'orchestre russe, Maris Jansons, à l'automne dernier. Cependant, on peut commencer à se dire que le temps passe, les mentalités évoluent, que les générations changent. Pourquoi faut-il féminiser la profession, Laurence Equilbé ? Est-ce que c'est par simple souci d'égalité ou parce que les femmes peuvent aussi imprimer une marque différente ?
Ça, je ne crois pas que les femmes font ça, les hommes font ça. Je crois que l'humain est un artiste, homme ou femme, et qu'il n'y a pas un genre féminin ou un genre masculin dans les arts. Mais... Je cite très souvent cette phrase d'Oscar Wilde, parce que pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux pour exprimer ce que je ressens. C'est la vie imite l'art beaucoup plus que l'art n'imite la vie. Et je pense que l'art, du coup, on peut pas imiter l'art à partir du moment où il y a très très peu de femmes. Il y a une torsion, du coup, qui s'opère avec la société, avec le peuple. Et ça, c'est pas du tout bon pour la culture. Et du coup, c'est vrai qu'avec la SACD, cette société d'auteurs et de compositeurs dramatiques, on a beaucoup œuvré, avec le Sénat aussi, avec l'Assemblée, pour faire avancer cette question de la présence des femmes dans la culture, notamment dans la programmation. Alors évidemment, à la direction artistique, direction en général, mais dans la programmation, c'est très choquant qu'il n'y ait pas plus de femmes, pour partager déjà l'outil, notamment dans le service public, pour qu'il y ait un égal accès aux moyens de production. Et ça, c'est dans la loi désormais, dans la loi du 4 août 2014, mais qui n'est pas du tout appliquée, puisqu'il n'y a pas de mesures qui sont faites pour... vraiment favoriser cette égalité d'accès. Alors maintenant, là, on peut se réjouir, c'est qu'il y a une très bonne feuille de route au ministère qui a été éditée il y a quelques mois. Elle est formidable, cette feuille de route. Il y a énormément d'axes forts, comme le développement d'objectifs chiffrés dans la programmation. Et ça, c'était il y a quelques années encore, c'était vraiment quelque chose qu'on n'envisageait pas du tout. Il y a même des bonus-malus sur les subventions, etc. Maintenant, il faut qu'elle soit appliquée. Je pense qu'on a fait un grand pas en avant maintenant avec cette feuille de route, et qu'il faut qu'elle soit appliquée et acceptée par tous.
Mais pratiquement, quand vous montez le festival ILO en février dernier avec l'Insula Orchestra, qui met les compositrices à l'honneur, est-ce que là, c'est difficile de trouver des femmes ? C'est compliqué ? Ou alors elles sont là, simplement on ne les voit pas ?
Alors là, une juste proportion aujourd'hui, par exemple pour les chefs d'orchestre, serait plutôt, là c'est 4% de femmes programmées, j'insiste, hein, il y en a beaucoup plus qui existent dans le monde. Je pense que dans quelque chose qui règne, qui résonne, on devrait être à 15-20%. Parce qu'effectivement, il n'y a pas énormément de femmes chefs d'orchestre, mais il y en a quand même peut-être au moins 200 dans le monde de très bon niveau. Et on devrait plus les voir, c'est pareil pour les compositrices contemporaines qui sont programmés juste à 4% aussi, ça c'est absolument scandaleux. Dans l'audiovisuel, on a ces mêmes déséquilibres, donc il faut absolument rééquilibrer. Il faut trouver un moment physique pendant au moins 3 saisons d'avoir une forme de discrimination positive pour déclencher ce mouvement, et après, on peut espérer qu'il y a plus un naturel qui se passe. Je ne crois pas du tout au naturel du mouvement sans ça.
Et à propos de naturel, cette autorité, la vôtre, oui. Quand vous êtes à la baguette, vous avez dû la travailler, ou c'était contre nature à l'origine, ou au contraire, ça faisait partie de vos qualités?
Moi, j'ai un tempérament un peu frondeur et un peu... j'aimais bien, quand j'étais enfant, être un peu en dehors des clous, etc. Donc, c'était dans mon tempérament. Je pense qu'il faut quand même un petit peu un tempérament de ce style. Mais par contre, on s'aperçoit que la voie de la conversation, la voie diplomatique est beaucoup, beaucoup plus efficace pour affirmer une autorité. Vous pouvez pas aujourd'hui ne pas tenir compte du ressenti des gens, surtout dans un milieu artistique. On n'est plus du tout dans l'ère des Toscanini, ou bien des chefs très autoritaires à la Celibidache.
C'est le chef Emmanuel Krivine au micro de la Grande Table qui avait cette jolie formule. Il parlait du rôle androgyne du chef d'orchestre dans l'écho qu'il pouvait y avoir aussi avec le public. Comment être juste en musique et dans la direction de l'orchestre? Ça, c'est aussi une question qui se pose avec ce miroir du public. Vous, quand vous travaillez une partition, vous pensez déjà à la perception que le public va en avoir? C'est ce que
oui,
vous recherchez?
Oui, ça c'est une de mes quêtes. Je pense que à tout point de vue, parce que j'aime bien que le public soit un peu en haleine, qu'il y ait de l'adrénaline dans le quand on fait un projet, notamment scénique, que le public soit intéressé tout de suite, et ça vraiment pour partager le plus possible avec le public. Maintenant, quand vous êtes chef, effectivement, c'est quand même vous qui êtes dans la position, vous pouvez entendre un peu tout ce qui se passe, vous résumez dans votre tête un peu toutes les propositions, et c'est vrai que vous êtes du coup un peu un truchement de tout ça, tout passe par vous, et c'est vous ensuite qui le transmettez au public. Donc, il y a des moments où vraiment vous avez une importance, notamment pour ce qu'on appelle la balance, c'est-à-dire décider que tel ou tel instrument est trop fort, pas assez fort, et les couleurs, vous pouvez infléchir beaucoup les couleurs, et ce qu'on appelle le tempo, c'est-à-dire la vitesse. Voilà.
C'est étrange parfois de tourner le dos au public, vous aimeriez voir ses réactions pendant
oui,
que vous dirigez.
Oui, bah, j'aimerais bien, d'ailleurs ça a pu se faire dans l'ancien temps, que le chef était dos aux musiciens, donc d'une façon ou d'une autre, quelqu'un est lésé de toute façon.
La scène musicale, vous restez, malgré le départ de Jean-Luc Choplin?
Ah bah, de toute façon, oui, Jean-Luc était lui du côté privé. Moi, je dépends du département des Hauts-de-Seine. D'ailleurs, c'est grâce à lui que ce projet est né. Et du coup, nous sommes dans un partenariat. Donc moi, effectivement, je reste. D'autant plus que Charles Guivarche vient d'arriver pour la programmation de la musique classique côté privé. Et qu'on s'entend très bien, on va collaborer beaucoup ensemble.
Alors, qu'est-ce qu'on pourra voir très prochainement?
Très prochainement. Alors là, tout à fait concrètement, il y a un festival Mozart qui s'appelle Mozart Maximum au fin juin. Et on va notamment voir Thamos, roi d'Égypte, qui est une œuvre de Mozart assez rare, qui est une musique de scène. Et la pièce n'est pas jouée, mais elle est racontée en direct, dessinée en direct et manipulée en direct avec Yanis Kokos et deux grands dessinateurs, de jeunes dessinateurs nantais.
Merci beaucoup, Laurence Equilbé.
Je rappelle que remercie.
Cette belle nonne sanglante, hein, toute de blanc, vêtue avec sa tache de sang qui lui perce le cœur, est à voir à l'Opéra Comique jusqu'au 14 juin sous votre direction. Merci mille fois.
Je vous y attends. Merci.